BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire donc de ce tout premier week-end du mois de juillet, eh bien nous reviendrons sur le bilan du sommet Choose France qui s'est tenu lundi dernier à Versailles. Les patrons étrangers ont annoncé 22 projets, soit plus de 3,5 milliards d'euros d'investissement dans notre pays. Et à la clé, selon l'Élysée, 7,000 emplois qui seront également créés. Et parmi ces multiples projets, bien, nous reviendrons notamment sur la confirmation de la création d'une usine géante de batteries électriques à Douai dans le Nord, un projet annoncé par le groupe chinois Envision, et les batteries seront-elles destinées au groupe Renault ? Enfin, ce week-end, où se tient à l'Élysée l'exposition Fabriquée en France, notre invité est Jérôme Nuss, président de la célèbre marque d'agenda et de carnet Covadis. Covadis, c'est du Made in France, précisément du Made in Loire-Atlantique, et la marque existe depuis plus de 60 ans. En France, donc, à défaut d'être champion d'Europe de football, nous sommes depuis 2 ans maintenant champion d'Europe des investissements étrangers. Une attractivité qui s'est confirmée lundi dernier lors du sommet Choose France, dont la 4e édition s'est tenue dans le toujours très prestigieux cadre du château de Versailles. À chaque fois, c'est l'occasion pour les grands patrons étrangers et pour l'Élysée, bien sûr, d'annoncer de nombreux contrats. Au total, cette fois-ci, 22 annonces pour un total de 3,5 milliards d'euros d'investissement. Thomas Asportas nous résume ces annonces avec tout d'abord le projet Envision d'usine de batteries électriques.
La star de ce Choose France 2021 est chinoise. Envision, une multinationale asiatique dans les énergies renouvelables, va construire une usine géante de batteries électriques pour Renault. 2 milliards d'euros vont être investis à Douai, dans les Hauts-de-France, et 2500 créations d'emplois sont prévues d'ici à 2030. Envision fournira les batteries de la future R5 et des 400 000 véhicules électriques que Renault veut produire dans le nord de la France chaque année. La France obtient aussi le premier studio de réalité augmentée au monde du réseau social Snap, basé à Paris. Ce studio va former les artistes, les milieux de la culture et les enseignants aux possibilités offertes par la réalité virtuelle. Le géant allemand du e-commerce Zalando va pour sa part construire un deuxième entrepôt en France. 300 millions d'euros d'investissement et 2000 emplois à la clé. Enfin, de nombreux projets vont être annoncés dans la santé avec des dizaines de millions d'euros engagés par Merck, Biogen ou encore Novo Nordisk. Au total, l'Élysée affiche cette année 22 nouveaux projets étrangers, 3,5 milliards d'euros d'investissement et 7,000 créations d'emplois. Le chef de l'État veut voir derrière ces chiffres la réussite de son plan de relance, de son soutien à l'économie pendant la crise et de sa politique pro-business depuis 4 ans.
Et tous ces grands patrons étrangers qui étaient présents à Versailles ont répondu aux questions de Thomas Asportas, qui était notre envoyé spécial, l'envoyé spécial de BFM Business sur place. Dans ce sujet signé Virginie Cook, on va donc réécouter successivement Lei Zhang, c'est le directeur général d'Envision, Stéphane Bancel, le PDG français de Moderna, qui veut créer en Europe une nouvelle usine pour produire ces fameux vaccins à ARN messager. Et puis on écoutera également Pat Gelsinger, c'est le directeur général d'Intel. Alors que vous le savez, les semi-conducteurs sont une denrée plus que rare dans l'économie mondiale. On les écoute donc tous les trois.
La France attire les grands groupes internationaux. Le plus gros investissement a été annoncé par le chinois Envision. 2 milliards d'euros injectés dans une future usine de batteries électriques à Douai. Et ce n'est qu'un début pour son PDG, Lei Zhang.
Envision va faire venir sur place ses sous-traitants, ses partenaires, pour créer un écosystème très compétitif. Notre but est d'être le fabricant d'énergie nouvelle en France.
New energy system for France.
Des annonces et peut-être de futurs projets, le laboratoire Moderna qui a décidé de monter une filiale à Paris pense également à la France pour construire sa future grande usine. Son PDG, Stéphane Bancel.
Ça serait bien sûr fabriquer l'ARN messager, donc la molécule médicamenteuse.
Ouais.
Et ensuite faire des partenariats avec d'autres sociétés pour le mettre en flacon. Ce sera le type d'investissement, je pense, de 100 à 150 millions d'euros.
La France est également sur les rangs pour l'implantation de la première usine géante de semi-conducteurs en Europe d'Intel. Mais la concurrence sera rude, souligne son patron, Pat Gelsinger.
Nous sommes en train de regarder différents sites en Europe, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Italie, en Irlande, et nous ferons notre choix avant la fin de l'année. D'ici à la fin de la décennie, c'est un investissement de l'ordre de 100 milliards de dollars au total que nous envisageons.
Reste à savoir si l'opération séduction d'Emmanuel Macron fera pencher la balance en faveur de la France.
Alors revenons un instant sur les ambitions de la France en matière de véhicules électriques. On vous parle beaucoup des projets d'usines de batteries, mais il y a un autre sujet qui s'avère pour l'instant un véritable frein au développement de l'électrique. Ce sont bien sûr les bornes de recharge, pas assez nombreuses, une charge trop lente et surtout un parc encore très insuffisant, notamment dans les espaces publics. Et bien, ce sont ces trois difficultés auxquelles tente de remédier Electra, une toute jeune start-up qui vient de lever 15 millions d'euros. Son objectif, déployer 1000 bornes d'ici 2030, essentiellement dans les centres commerciaux, les supermarchés, les hôtels et les parkings. L'un des trois cofondateurs d'Electra, Aurélien Demeaux, était l'invité cette semaine de Good Morning Business.
Le principal frein à l'adoption de la voiture électrique aujourd'hui, c'est la recharge. Pour faire la voiture électrique, il faut des voitures, il faut des batteries et il faut de la recharge. Et la recharge, c'est véritablement la clé de voûte du système et c'est aujourd'hui ce qui freine les gens à passer à l'électrique, puisque 70% des utilisateurs de voitures électriques ne sont pas satisfaits de la recharge dite publique, donc ouverte au public. Et on les comprend d'ailleurs, parce qu'en fait, 25% des sessions de recharge échouent. Donc c'est comme si vous alliez à la station essence et que vous aviez une chance sur quatre que votre plein ne marche pas.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des bornes actuellement qui ne marchent pas sur les 35 000 installées.
Il y a beaucoup de bornes qui ne fonctionnent pas. En fait, le retour des usagers, c'est qu'il n'y a pas assez de bornes, les bornes ne fonctionnent pas et les bornes sont trop lentes, je mets trop longtemps à charger ma voiture.
Alors si vous êtes sur ce plateau ce matin, c'est parce que vous levez 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, c'est pas beaucoup, parce que ça coûte quand même très cher d'installer des stations de recharge. Là, vous prévoyez d'en installer 1000 d'ici 2030. Il faudra beaucoup plus que 15 millions pour installer 1000 bornes, j'imagine. C'est une aventure, mais pas que pour vous, hein, pour tous ceux qui se lancent dans cette industrie électrique. Ça donne le tournis, hein, les millions, les milliards qu'il va falloir investir. Est-ce que vous vous sentez capable de mener ça, ces 1000 bornes installées d'ici 10 ans ?
Alors vous avez tout à fait raison, 15 millions d'euros, c'est à la fois beaucoup, puisque c'est la plus grosse levée de seed de l'année en France,
ouais.
Et en même temps, c'est pas beaucoup, puisque pour financer un réseau de superchargeurs, de stations de recharge ultra rapide, ça coûte très cher. Donc nous, on est vraiment là pour financer la phase 1 du plan d'Electra, qui est de déployer entre 40 et 50 stations à horizon fin 2022. Et puis ensuite, derrière, il faudra d'autres financements pour aller étendre ce réseau jusqu'à 1000 stations en 2030. Et on a également des subventions qui sont très importantes, puisque le gouvernement a compris qu'il y avait un sujet d'œuf et de poule entre la voiture électrique et la recharge.
Bien sûr.
Et donc, il y a des subventions très importantes dont on va bénéficier.
Ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il va en falloir beaucoup d'ici 2030, 100 000 dans un premier temps, presque 500 000 au final, c'est ce que l'Union européenne préconise. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'en faut pas forcément autant, mais qu'il en faut de très bonne qualité.
C'est exactement ça. C'est ce qu'on fait chez Electra. Nous, ce qu'on veut, c'est des superchargeurs qui soient ultra rapides, je l'ai dit, qui soient fiables, et qui soit très simple à utiliser. On se déploie dans les agglomérations principalement de Lille, Paris et Lyon, et on a trois types de sites avec lesquels on travaille. Ce sont des hôtels et des restaurants, des centres commerciaux et enfin des parkings publics.
Et dans cette émission, on parle décidément beaucoup d'industrie. On va faire une parenthèse consacrée à la finance, puisque la France, après le Brexit, veut montrer qu'elle compte parmi les plus grandes places financières européennes. Mardi dernier, Emmanuel Macron a visité les locaux parisiens de la banque américaine JP Morgan. Sur place, et bien place Vendôme, on retrouve Stéphane Pedrazzi, qui était l'envoyé spécial de BFM Business.
Conséquence du Brexit, JP Morgan a déjà transféré 140 emplois de la Grande-Bretagne vers la France et le phénomène devrait s'accélérer dans les prochains mois puisque d'ici la fin de l'année, 440 salariés devraient travailler depuis le siège parisien de la banque américaine ici Place Vendôme en plein cœur de la capitale. La France qui a clairement amélioré son attractivité aux yeux des investisseurs. On est très loin des déclarations de François Hollande qui en 2012 estimait que la finance était son principal ennemi. Des réformes, notamment fiscales, ont également été mises en place et ont contribué à améliorer l'attractivité de la France aux yeux des investisseurs internationaux. Et du côté du gouvernement, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, met aussi en avant la volonté de la France de devenir l'un des leaders mondiaux en matière de finances responsables. Écoutez-le.
On a fait avec le président de la République un choix très clair, celui de la finance verte, la finance responsable, avec à chaque fois des critères qui sont vérifiés, des critères objectifs. Nous voulons que les banques investissent dans la lutte contre le réchauffement climatique, permettent de financer tous ces investissements dans les énergies renouvelables qui sont une fois encore très coûteux et absolument indispensable.
JP Morgan n'est pas un cas isolé. Bank of America a créé une filiale en France en 2019 et compte désormais près de 450 salariés. Morgan Stanley compte également renforcer ses effectifs dans l'Hexagone. Il devrait être doublé d'ici la fin 2023.
Et puis dans l'actualité de la semaine, il y a aussi la volonté très claire de l'exécutif de relancer l'industrie de la santé. Sur notre antenne, il y a quelques jours, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher a regretté le décrochage français en la matière dans les années 2010 et 2000. Pour y remédier, le chef de l'État a annoncé un plan d'investissement de 7 milliards, dont 4 milliards d'argent public, en faveur des entreprises innovantes dans le domaine de la santé. Derrière cela, bien sûr, il y a les enjeux de souveraineté sanitaire. Une souveraineté, vous le savez, prise en défaut lors de la crise du Covid-19. En tout cas, d'ici deux ans, eh bien, on pourra enfin à nouveau acheter du paracétamol made in France. La production va bientôt reprendre dans une usine de l'Isère. Explication signée Hélène Cornet.
C'est un retour aux sources. La France va de nouveau produire du paracétamol sur le site historique de Roussillon en Isère. L'usine appartenant au groupe chimique Rodia avait fermé en 2008. Son nouveau propriétaire, le sous-traitant Seagens, va reprendre la production de cet antalgique présent dans les trois médicaments les plus vendus en France, à savoir le Doliprane, le Dafalgan et les Veralgan. L'usine devrait être opérationnelle en 2023 avec une capacité de production de 10 000 tonnes de principes actifs. Sanofi et UPSA, qui le faisaient venir d'Asie ou des États-Unis, se sont engagés à se fournir chez Seagens durant une dizaine d'années. Une production made in France qui devrait entraîner un surcoût limité selon son fabricant et largement compensé par l'intérêt d'avoir un approvisionnement sécurisé. Montant de l'investissement, une centaine de millions d'euros, dont un gros tiers est financé par le plan France Relance. L'État entend faire du redémarrage de cette activité stratégique le symbole du retour à une souveraineté sanitaire.
Et avant de recevoir notre invité de la semaine, Jérôme Nuss, le patron de Covadis, eh bien, nous allons réécouter deux autres membres du gouvernement présents cette semaine sur BFM Business. Alain Griset, le ministre délégué aux PME, et également Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. L'un nous parle des prévisions élevées de croissance pour 2021 et l'autre de l'exposition du Fabriqué en France qui a lieu ce week-end à l'Élysée. On les écoute.
La reprise est très forte, vous l'avez dit. Là, les chiffres le montrent. L'INSEE l'a encore confirmé. Consommation des ménages est repartie en flèche avec une hausse de 10,4%. Le moral aussi des Français est en hausse. Donc, c'est vraiment une reprise très forte.
C'est une reprise très forte et c'est à peu près conforme à ce qu'on espérait avec Bruno Le Maire. Nous avions, rappelez-vous, deux objectifs il y a quelques mois. D'abord, un, c'est de maintenir le tissu économique. Oui. C'est fait. On a toujours une baisse d'environ 35% des défaillances. Ça veut dire que le tissu économique est présent. Et le tissu économique est présent, il y a pas mal de Français qui, l'ayant pu, ont fait des économies. Je rappelle, plus de 170 milliards d'économies. Et donc, il y a cette envie de revivre, de consommer. Et donc, entre le plan de relance et une partie de l'épargne des Français, je pense qu'on a le moyen d'avoir une économie qui reprend très vite et des prévisions de croissance assez intéressantes pour cette année.
Oui, vous avez vu celle de la Banque de France, hein, qui est encore plus élevée que celle du gouvernement. Vous allez relever votre prévision de croissance?
Nous, on est toujours autour de 5%.
Oui, ben là, on fait un peu
tant
plus.
Mieux si on fait plus.
Les dernières questions, ce week-end de nouveau, une sorte de salon Made in France à l'Elysée, avec les produits français que vous avez sélectionnés. Votre coup de cœur, vous, Agnès Pannier-Runacher, vous faisiez partie du comité de sélection.
Moi, j'avoue que je reste fascinée par l'industrie lourde et coup de cœur pour les blooms de Ascoval. Ascoval, c'est une aciérie électrique qui a failli fermer en 2018.
Et les blooms,
les blooms, ce sont ces barres qui servent ensuite à fabriquer des rails, en l'occurrence pour Ascoval. Ils ont transformé en 18 mois leur fabrication pour permettre de récupérer de la ferraille et fabriquer des rails pour la SNCF avec Ayange. Et ça, je trouve que c'est une histoire industrielle merveilleuse et c'est un coup de chapeau pour les salariés.
Voilà donc un des exemples parmi 126 de ces entreprises, ces sociétés qui représentent toute la France lors de l'exposition fabriquée en France au week-end à l'Elysée. C'est donc Ascoval et c'est Bloom pour le département du Nord. Et pour la Loire-Atlantique, j'ai vérifié, c'est la fonderie Bouillet qui fabrique des contrepoids en fonte. Ça aurait pu être Covadis. Bonjour Jérôme Nuss.
Bonjour.
Vous êtes donc à la tête de cette marque Covadis depuis 2002, président de la célèbre marque d'Agenda. Vous êtes en effet donc installé à Carquefou en Loire-Atlantique depuis près de 50 ans. c'était au début des années 70. Vous auriez pu, je le dis, donc être dans cette exposition.
Exactement, et je pense que on va postuler pour la prochaine édition, parce que l'agenda Covadis existe effectivement en Loire-Atlantique depuis le début des années 70, mais c'est une histoire qui remonte à même un peu plus longtemps.
Que 1954 du côté de Marseille, hein, c'est bien ça.
Exactement, c'est l'histoire d'un docteur qui dirige un dispensaire et qui n'avait pas d'outils pour pouvoir organiser toutes les réunions des dentistes, et qui décide sur des pages blanches de tamponner une par une et de créer des cases pour avoir une organisation en mode planning de ces rendez-vous. Et c'est comme ça que l'agenda planning est né. Donc il y a plus de 65 ans.
C'est un docteur, je crois, qui est décédé l'année dernière. Il avait plus de 100 ans, hein, si j'ai bien lu.
Exactement. Ouais, voilà, comme quoi ça maintient.
Alors on va se projeter dans l'époque actuelle, 2021. Comment vous d'abord avez-vous traversé cette pandémie? Est-ce que ça a eu un impact sur votre chiffre d'affaires et sur vos salariés, bien évidemment?
Je pense qu'on a tous été touchés, hein, personnellement c'est sûr, mais aussi professionnellement. Nos agendas sont distribués dans des magasins, et ces magasins étaient fermés en fin d'année dernière, au moment de la saison des agendas d'année civile.
Et l'impact a été fort sur le chiffre
d'affaires. L'impact a été plus significatif que la baisse habituelle de l'agenda papier, ceci étant.
On est de l'ordre de quelle baisse de manière générale sur la saison dernière?
On était deux fois plus important en baisse. On était en gros à -6%, alors que généralement c'est genre 2-3% de baisse de marché de l'agenda.
Parce que vous l'évoquez, voilà, c'est un marché qui est
mature.
Mature, donc mature qui dit mature dit à la baisse un peu. Mais comment est-ce qu'on parce que ce sont de jolis objets, ce sont des choses en plus made in France, donc pour nous c'est super important. Mais comment est-ce qu'on résiste à cette invasion du digital? Vous-même, vous avez fait des incursions dans le monde du numérique. Est-ce qu'elles fonctionnent ou est-ce que vous restez fidèle à vos agendas? À vos carnets papier?
On a fait des incursions et on ne regrette pas du tout. Ces 7 ans, on s'est bien rendu compte que c'était un autre métier, il y avait d'autres acteurs et que ce n'était pas l'ADN profond de Covadis. Par contre, c'est une expérience très enrichissante d'aller et même de se casser la figure pour se relever et derrière continuer sur d'autres tentatives. Notre tentative qui marche, c'est celle de personnaliser l'agenda sur mesure grâce à des interfaces web sur Internet, évidemment, et qui permettent de créer son agenda à son image en personnalisant pratiquement tout de A à Z. Cet agenda est fabriqué dans nos ateliers de Carquefour et est fabriqué à l'unité et reçu par la personne.
Vos ateliers de Carquefour, quelques chiffres clés, nombre de salariés et nombre de produits qui sortent chaque année?
Il y a plus de 210 personnes, plus de 8 millions d'agendas et de carnets qui sont fabriqués tous les ans, 250 000 agendas par semaine dans les fortes saisons. On a 15 éditions différentes, hein, parce que Covadis exporte
15 langues différentes, hein, c'est
oui,
bien cela.
Oui, 15 éditions étrangères différentes. Covadis exporte dans 60 pays, dans plus de 10 000 points de vente. Et c'est vrai que notre distribution est avant tout une distribution spécialisée dans les points de vente physiques.
Alors je précise que vous faites partie depuis plus de 20 ans, depuis 1999, du groupe Hexaconta Clairefontaine. Est-ce qu'il y a des synergies qui se mettent en place entre ces trois célèbres marques?
Il y a une synergie assez évidente parce que Clairefontaine, effectivement, on connaît tous le papier.
Ouais.
Et donc Covadis profite de ce beau papier de qualité pour tous ces agendas. Et derrière, du coup, la qualité Covadis est sublimée grâce à ça. Et à chaque fois, effectivement, les consommateurs continuent de plus en plus fidèles, toujours aussi fidèles, d'acheter chaque année leur agenda papier.
Et vous êtes de manière familiale lié au groupe Hexaconta Clairefontaine. Vous êtes, si je ne me trompe pas, le petit-fils du fondateur de ce groupe. Hein. C'est
oui,
bien ça.
C'est une histoire familiale dont je suis issu. Covadis, c'est aussi une histoire familiale parce qu'effectivement, le fondateur est mort il n'y a pas longtemps et il a cédé il y a 15 ans sa boîte. Oui, on est dans cette tradition, on est dans cet esprit et dans cette pérennité que l'on veut à cette belle histoire et à tout ce personnel qui travaille en France.
Et ce capitalisme familial, industriel, très ancré dans les territoires, on s'en moquait un peu il y a quelques années. Est-ce que vous trouvez que maintenant c'est une force face à l'évolution et à un nouveau contexte?
C'est une force. Il y a 15 ans, effectivement, beaucoup de concurrence venait de plus loin qu'en France. mais ça n'a jamais été une remise en question. Depuis plus de 65 ans, que ce soit à Marseille au début, au Covadis-Aîné, et ensuite à Carquefou, en Pays de Loire, la force de Covadis est dans son savoir-faire, est dans son usine, est dans les personnes qui chaque jour travaillent, impriment, plient, façonnent, emboîtent. C'est la richesse de Covadis, ses savoir-faire, c'est ses hommes. Et vraiment, on se rend bien compte que ben, on a eu raison dès le départ et de continuer et de pas céder aux sirènes de la mondialisation.
Et la délocalisation, ça vous a traversé l'esprit. Vous êtes à la tête du groupe depuis près de 20 ans. Jamais il y a un moment où, quand vous voyez les bilans comptables, vous dites les charges, les recettes, etc.
Du tout.
C'est peut-être plus économique d'aller le faire loin et de le rapatrier.
Ben, en fait, ça avait quand même ça a du sens de rester en France parce qu'il y a un savoir-faire qui est unique. En fait, pour fabriquer les agendas, c'est pas une bobine et puis derrière une machine, c'est très très complexe, il y a plusieurs dizaines d'étapes, c'est un côté très technique mais en même temps aussi très très manuel et donc du coup ce savoir-faire il est pas exportable et il existe en France et voilà, c'est notre richesse. Donc j'ai aucune idée, j'ai aucune raison d'aller arrêter cette richesse, c'est la plus belle, celle de cette expertise, celle des hommes qui sont derrière. Et on a raison, on voit bien qu'on a raison, parce que maintenant, ça a du sens en plus.
Absolument, et ça on retrouve de plus en plus d'ailleurs.
De plus en plus.
Et la pandémie l'a bien mise en avant. Outre le Made in France, vous insistez aussi sur votre volonté de bien sourcer vos fournisseurs avec certaines valeurs, et vous êtes aussi, comme de nombreuses entreprises, dans la mouvance du développement durable et du produire de manière un peu plus durable également.
Oui, Covadis est certifié Origine France Garantie. Hein, depuis 2013, mais avant on a la certification ISO 14001 pour l'environnement, on a les certifications sur la fabrication, sur l'impression, sur l'origine du papier. C'est vrai qu'on doit montrer d'où viennent nos matières premières, où est-ce que c'est fabriqué, et effectivement aussi la qualité du produit. Tout ça, ça a un sens, et de nos jours, les gens consomment en regardant ce qu'ils font. Ils n'achètent pas n'importe quoi, uniquement le prix. Donc du coup, c'est vraiment nécessaire pour nous d'aller dans un projet de type RSE, même si on en fait déjà depuis plus de 20 ans, en fait.
Absolument. Il nous reste 30 secondes, Jérôme Nuss. Les produits qui vont sortir là, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, les choses que vous voulez mettre en avant de la gamme de Covadis.
On a une gamme qui est très brandée dans le recyclé, dans toutes ces notions-là, qui s'appelle la gamme pure, qui est d'une part fabriquée à partir de papier recyclé qui vient des usines du groupe. Et cette usine du groupe reprend tous nos déchets de production d'impression. Donc il y a déjà une économie circulaire sur ce papier-là qui revient recyclé. Et d'autre part, la couverture est fabriquée à partir de fibres recyclées naturelles, mais aussi de graines des champs. Et cette couverture amovible, on peut à la fin de l'utilisation de l'agenda le mettre dans son jardin et l'arroser, et ça fait des plantes des champs.
Le recyclage, des champs. Le recyclage donc également au cœur, voilà, de la
gamme. Et donc effectivement, voilà, c'est notre objectif, c'est de pousser au plus loin tout ça, parce que c'est essentiel en fait.
Absolument, donc on aura bien compris ce message de développement durable aussi au cœur de la stratégie de Covadis. Merci beaucoup Jérôme Nuss, président de cette célèbre marque d'agenda et de carnet, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et pour terminer cette émission, eh bien, je vous propose de nous intéresser aux trois finalistes de la BFM Academy qui seront en compétition ce lundi à 19h pour la grande finale de la saison 16 de ce qui est chaque année un des plus grands concours annuels de start-up. On va donc réécouter les pitchs des sociétés Fonto de Vivo. Ce sont des purificateurs d'eau. Puis Moby Travel et sa plateforme de réservation de vacances pour les personnes à mobilité réduite. Mais tout d'abord, Diagrams Technologies. On est là dans le domaine de la maintenance prédictive pour les équipements industriels. Voici donc les trois finalistes de la BFM Academy 2021.
Aujourd'hui, dans l'industrie, les équipes de maintenance sont sous pression. On a d'un côté une pression financière, puisque les pannes, ça coûte de l'ordre de 200 000 euros de l'heure. Et de l'autre côté, une pression RH, puisqu'il y a eu en fait un fort départ à la retraite des experts qui n'ont pas réussi à transmettre suffisamment leurs connaissances, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de techniciens de maintenance dans les usines. Donc, chez Diagrams Technologies, on propose une solution de maintenance prédictive, innovante, qui permet en fait d'aider justement ces équipes sur le terrain à surveiller en temps réel l'état de santé de toute leur machine industrielle et de pouvoir anticiper les pannes. Alors concrètement, notre solution, elle alerte les techniciens de maintenance dès que notre système détecte une anomalie, et on leur pousse l'information en expliquant où est le problème et surtout de quoi il s'agit. Alors, notre différence par rapport aux solutions existantes, c'est que pour faire cette surveillance, on n'a pas besoin de venir rajouter de capteurs supplémentaires. Nous, on vient analyser les données qui sont déjà présentes nativement dans les machines industrielles. Ces données sont aujourd'hui complètement sous-exploitées et nous, on arrive à les valoriser grâce à notre technologie propriétaire de machine learning qui est issue de plusieurs années de R&D chez INRIA.
Notre projet, à nous, c'est d'être une entreprise à très très fort impact sur une problématique qui est mondiale. C'est-à-dire que c'est 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, 150 millions de personnes qui sont impactées par des désastres humanitaires tous les ans, et 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans qui décèdent tous les ans de ne pas avoir accès à de l'eau potable. Alors, notre proposition, c'est ce petit objet, là, un purificateur qui permet, par simple pompage manuel, de purifier de l'eau de toute pollution biologique. Notre positionnement, c'est B2B, vers les ONG et les gouvernements. Grâce à nous, maintenant, les ONG vont pouvoir avoir un dispositif extrêmement simple à mettre en œuvre, sûr et économique. Et puis, les gouvernements, de leur côté, eux, vont pouvoir répondre aux besoins dans la ruralité en distribuant nos purificateurs sans avoir à investir des millions dans des infrastructures.
Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Guébard. Il y a quelques années, j'ai voulu partir en vacances avec un proche qui est en situation de handicap, en fauteuil roulant. Et on s'est heurté à plusieurs problèmes. Soit le logement, on arrive sur place et le logement n'est pas accessible. Il est aux normes PMR, malheureusement, il y a un gros fossé entre les normes et la réalité des besoins. Et ensuite, on a voulu passer par des agences de voyage adaptées. Simplement, il fallait payer 3 à 4 fois plus cher parce qu'il y avait un fauteuil roulant. Donc, on ne trouvait pas ça normal. Donc, j'ai décidé de créer Mobitravel. Mobitravel, qu'est-ce que c'est ? C'est la première plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes à mobilité réduite et à besoins spécifiques. Qu'avec des logements qu'on a certifiés et vérifiés, on en compte plus de 30 000 aujourd'hui partout dans le monde, dans plus de 70 pays. Et on va apporter gratuitement pour nos clients tout ce qui est matériel médical et aide médicale pendant le séjour. Vous avez besoin d'un lit médical, vous avez besoin d'une infirmière, on vous l'organise. Et enfin, on va vous dire, vous avez cette activité, ce musée qui est disponible autour de votre lieu de séjour.
Voilà donc pour ces 3 très beaux projets. L'un d'entre eux remportera la finale de la 16e édition de la BFM Academy. Ce sera à suivre en direct sur nos antennes TV, radio et web, bien sûr, ce lundi 5 juillet à 19h en compagnie de Laure Clausier. Et nous, on se retrouve le week-end prochain pour un tout nouveau numéro de La France à tout pour réussir. D'ici là, bon week-end, bonne semaine, peut-être même très bon début de vacances et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, La France à tout pour réussir.